Dans cette période de fête de Pâques, nous revenons aujourd'hui sur l'histoire de la fête en Bohême. Au-delà du folklore et du divertissement, cette tradition tchèque est d'abord née des vicissitudes de l'histoire, autant qu'elle a su aussi se faire symbole politique. Et dans cette histoire profane, l'Église a joué un rôle majeur. Paradoxe d'un art d'abord religieux, le baroque emporte l'adhésion du fidèle par la beauté et la séduction, plus que par un ascétisme dogmatique. La musique élève l'âme, l'architecture, par sa représentation flamboyante des saints et des anges, donne un avant-goût de l'harmonie céleste. Écoutons l'historienne Ivana Korneyova à propos du concile de Trente tenu au XVIe siècle pour réformer l'Église face à la menace protestante. Le concile a montré une grande compréhension pour les faiblesses et les tentations humaines, notamment par la codification des formes extérieures de piété. Et cette piété saura se faire populaire et en quelque sorte festive. On compte de nombreuses formes de sociabilité religieuse, confréries ou associations mariales, adeptes de la prière du rosaire. Les jésuites marqueront un grand coup en obtenant en 1729 la canonisation de Saint Jean Népomucène. Dans les villes et les campagnes de Bohême, puis d'Europe centrale, on voit se dresser statues et processions populaires. La célèbre Pietas Austriarca, la piété à l'autrichienne si l'on veut, conquiert le peuple pragois. Vers 1740, on compte autour de 60 fraternités dans la ville, source d'une véritable sociabilité urbaine. De nombreux couvents fondent leurs propres associations avec un culte spécifique, rosaire, scapulaire. En tout, c'est une piété chaleureuse, fondée sur le contact direct avec la Vierge et les saints. Les fêtes populaires rythment l'année et offrent un encadrement spirituel. Elles aident le fidèle à supporter le poids des guerres et des épidémies. Certains historiens soulignent un point qu'on oublie souvent. L'entreprise de recatholicisation des terres tchèques par les Habsbourg est effectivement une reconquête. Celle-ci a porté ses fruits dans les chiffres officiels, mais en réalité, il existe encore au XVIIIe siècle des noyaux de protestantisme en Bohême. Le succès a en revanche été net concernant la création d'une sociabilité populaire. Et le peuple, catholique sincère ou non, y était attaché. Au XIXe siècle, la tradition se confirme, mais le contexte est différent. La conscience nationale se développe en crescendo tout au long du siècle. Au début, la continuité avec la fête religieuse est perceptible. La religion reste présente dans la société. Les fêtes de Saint-Jean ou de Saint-Jacques sont ainsi l'occasion de grandes foires. Mais déjà, la fête se fait beaucoup plus profane. Nous reprenons le témoignage éloquent de Karel Ladislav Zapp. Il nous décrit la fête de la Sainte Marguerite qui se déroule dans le parc de l'Étoile et rassemble pas moins de 20 000 personnes. Depuis la porte de Straov jusqu'à l'Étoile, il y a une heure de route. On s'y rend en longue colonne et avec des conversations bruyantes. On festoie sur l'herbe. Les seaux de bière se vident avec assiduité, règnent partout la fantaisie et le bal. C'est la danse et les rondes au son du violon et de la cornemuse. Outre les fêtes de saints, il y a aussi les fêtes de corporations de métiers. Les cordonniers se réunissent dans le quartier de Nousselet et à Boubenetz, ce sont les tailleurs. Tout un folklore populaire en ressort qui inspirera l'intelligentsia indépendantiste. Romantisme et nationalisme sont inextricables dans ces années de conscience nationale. C'est peut-être ce qui explique que la révolution de 1848 à Prague ressemble presque à une grande fête folklorique. L'écrivain Léopold Zacher-Mozart, présent sur les barricades de juin, livre un témoignage rétrospectif. « Quand j'arrivais à Prague au mois de mai, il me sembla qu'on était en plein carnaval et que toute la ville était un grand bal masqué. La haine contre les mœurs allemandes aboutit à ce que chaque nationalité autrichienne recherche son costume national. Les Tchèques feront preuve d'originalité en inventant leurs propres costumes nationaux. Et l'insurrection prend effectivement l'aspect d'un bal. Le corps slave, Svornost, concorde, porte des pantalons gris avec une casaque polonaise, une hallebarde dans une main. La légion des étudiants tchèques, la Slavia, porte des pantalons collants, des brodequins, une casquette rouge et carrée à la polonaise. On voit même un tribun déambuler dans le costume de Georges de Podiebrade, roi de Bohême au XVe siècle. La répression autrichienne, qui verra plus de blessés que de morts, change le ton et met un terme au projet d'indépendance. Quand l'indépendance est enfin proclamée le 28 octobre 1918, doit-on être vraiment étonné de retrouver, malgré l'importance de l'événement, cette atmosphère de fête, si traditionnelle? D'un côté, les soldats tchèques arrachent leur insigne autrichien et l'aigle à deux têtes, symbole de l'État autrichien, est jeté du haut des édifices publics. Mais la musique reste la grande meneuse. À Vienne, on dira même avec une pointe d'ironie et d'amertume, ce ne fut pas une révolution, ce fut un concert.